chez toi, 4 à 4.
Voleur, sale voleur, oui, sale petit voleur. Où est-il? Ils nous l'ont volé, mon précieux.
Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Mon père,
ich bin dein Vater,
était un ivrogne et un sadique.
J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Et un soir, alors qu'il est plus toc-toc que d'habitude, maman chope le couteau de cuisine pour se défendre. Il n'apprécie pas. Et il n'apprécie pas du tout. Ensuite, moi regardant, il lui enfonce le couteau dans un immense éclat de rire. Et il se tourne vers moi et il dit « Pourquoi cet air si sérieux ?»
Bienvenue en Erdo Erdiwa.
Ouais, hello, hello, Hugo.
107.77.x.
Voilà,
bienvenue sur FM.
Voilà, tout à fait. Et wrdiwa.fr pour les internautes.
Oui.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tous les méchants.
Oui,
dans
c'est
le...
ton choix.
Oui, c'est mon choix.
Merci, Evelyne.
Ouais.
Alors, donc voilà, donc nous allons parler des méchants dans l'histoire. Mais au début, ma foi, Hugo se lance tel Bernard Pivot dans les émissions d'Apostrophe et il va nous expliquer qu'est-ce que finalement un méchant.
Un méchant, c'est Gwen. Le méchant est un personnage quasi incontournable. Que l'on parle de comédie ou de tragédie ou etc., etc., la quasi-totalité des films illustre un combat du bien contre le mal. Das Manichaeans. Non, ça c'était moi. Il faut commencer par s'entendre sur les mots. Définir le méchant est plus difficile qu'on pourrait le croire, surtout quand ce méchant est le personnage principal. Quand ce n'est pas le cas, on peut définir le méchant ainsi. C'est le personnage qui s'oppose au héros.
C'est pas faux.
T'as vu, hein ? J'ai encore enfoncé un clou, là.
Ouais, ouais. Ah, merci monsieur Robert.
Oui, les méchants et le cinéma d'animation, c'est une longue histoire. De la reine de Blanche-Neige à Megaman, c'est presque 75 ans de méchanceté. On dit parfois que la qualité d'un film se mesure à la qualité de son méchant.
Oui, c'est Alfred Hitchcock qui le disait.
C'est vrai ?
Il disait que plus le méchant est bon et plus le film l'est.
Tous les films que nous parlerons dans ATC sont des grands films. Pourquoi ? Car leurs méchants sont tous incroyablement démoniaques, ingénieux ou encore brillant.
Tout à fait, comme
donc,
Danny.
Who's dead?
Comme dirait Michael,
voilà.
Who's dead?
Quel film où le méchant gagne à la fin? Tu as perdu, fallait répondre plus vite. Il n'aura pas gagné ta tata. D'ailleurs, elle est remise en jeu car personne n'a gagné.
Non, oui, personne n'est venu surtout la chercher et c'est bien dommage parce qu'une tata tout en boîte d'allumettes, et ben, c'est un garant de succès auprès des filles.
Ça nous a pris vraiment du temps.
Oui, et puis voilà, et c'est écologiquement très, très bon.
Un extincteur est offert à vous. Oui, pour répondre à ma question, donc il y a Jason, vendredi 13, oui. Destination finale. Il y a la très belle fin du méchant Hannibal, mon héros.
Ça m'étonne pas.
Oui, la surprise de la porte des secrets, le twist de The Descent, l'horreur complète de Brazil, le tueur de Memento, le démon de la malédiction, celui avec Gregory Peck, hein.
La légende
de Pocahontas.
Crois que la terre t'appartient tout entière.
Non. La légende de Soleil Vert ou de la planète des singes, ancienne et nouvelle version. La fin de la nuit des morts vivants est cultissime, comme celle très bien faite de l'armée des morts, épilogue, et le premier et excellent saut. Donc je laisse la parole à notre méchant et cultissime connu dans le Diwa.
Alors moi je veux proposer à mon cher collègue et néanmoins ami...
Je préfère moi.
Oui, ça m'étonne pas vu ton physique. Ah ben je suis le méchant. Moi je proposais de faire l'émission en trois thèmes, en primo tous les tueurs, donc les psychopathes ou les tueurs sans âme, enfin du moins c'est comme ça que je les ai appelés. Ensuite, les mauvais qui sont plutôt victimes, donc ils se retrouvent coincés dans leur univers. Et puis les derniers, les sans doute les plus connus, les méchants charismatiques. Ceux que tout le monde a finalement envie d'être, même si c'est quand même que du cinéma. Voilà.
Oui, charismatique avec un H.
Oui, voilà, charismatique. Avec un K. Oui, charismatique.
Merci, mon petit ouais. Bernard.
Mais de rien, et là, je t'apostrophe. Première catégorie, les tueurs psychopathes et les tueurs sans âme. Alors, la définition. La définition des tueurs psychopathes, c'est-à-dire que c'est tous ces méchants qui enchaînent les victimes, je dirais pas la pelle ni au bout de leur couteau, mais quelque part un peu. Et puis les sans-âme, moi c'est tous ces monstres qui remplissent les cinémas de films d'horreur. Donc tout ce qui est comme Jason, donc de Vendredi 13, Michael Myers, Krueger, la mort dans Destination Finale. Et puis les tueurs sans-âme, ce sont autres que les aliens, les prédateurs, les requins aussi, et oui. Puis les piranhas et ainsi de et suite. Tous ces un peu ces films d'horreur de tous ces tueurs qui enchaînent les cadavres à la chaîne, ouais, et même pas aux 35 couteaux. C'est un genre que raffole le cinéma, surtout évidemment le cinéma d'horreur. Voilà, c'est ça, parce que je veux dire, quand tu arrives comme le fameux petit Jason, hein, qui est celui de Vendredi 13, le premier film qui est sorti en 1980. Donc il raconte l'histoire d'un, en 1957, un jeune garçon, Jason Ward, meurt noyé dans un camp de Crystal Lake.
Il n'a pas fait exprès.
Non, il n'a pas fait exprès. Et l'année suivante, deux moniteurs sont également tués. Donc le camp reste abandonné. Et en 1980, Steve Christie décide de leur ouvrir, évidemment, un...
Vendredi 13.
Voilà. Et là, le tueur revient à la life.
Pourquoi il avait un masque de hockey, au fait ?
Que ce soit Jason, ou que ce soit même, je crois qu'il y a Michael Myers aussi.
Oui, oui. Ouais. Ils sont adeptes du couteau. Ouais.
Ils sont adeptes du couteau. Et puis, il y a aussi Face de Cuir, qui est le...
Face de Cuir ?
Oui, l'assassin de Massacre à la tronçonneuse.
Ah oui.
Donc voilà. Et
ouais,
puis,
mais lui, il est simple.
Parce que Michael Myers a fait quand même sa première victime à 6 ans. Hein. Il a poignardé sa jeune sœur Judith, qui avait 17 ans, et qui a été ensuite interné sous la garde du fameux docteur Loomis.
Oui.
Et s'en échappe à 21 ans. Alors là, je veux dire qu'il y a une suite sans fin de
suite.
De films. Non, parce que le premier de 1978, de La Nuit des Masques de John Carpenter. Ensuite, il y a en 81, 82, 88, 89, 95, 98, 2002, 2007 et 2009.
C'est peut-être celui-là que j'ai vu en 2009. Mmh. Il revient pas au début, celui-là, là. Il explique pas dans le camp. Je sais pas.
Ben en fait, oui. Et puis parce qu'en fait, il y avait quelque part sa demi-sœur, Jamie
Lee. Quelque part.
Oui, voilà.
D'accord.
Et Jamie Lee Curtis qui fait qui meurt. Et puis il y avait comment il s'appelait là, le rappeur là.
Ice-T.
Busta Rhymes. Voilà.
Voilà.
Et Busta Rhymes. Et en fait, ils font un sorte de Big Brother, comme on dirait en Hollande, là, cette fameuse émission où on enferme les gens avec des caméras et là, ils sont tués les uns après les autres. Quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Donc armé d'un couteau, enfin Michael Myers, et masqué, on ne l'arrête plus, le petit Michael.
Oui, le petit Michael, tout mignon avec son petit couteau.
Un tantinet monomaniaque, non. Le jeune homme montrait déjà durant son enfance quelques sérieuses tendances au massacre.
On peut le dire.
Voilà, c'est tout ce que je dirais pour laisser le suspense entier.
Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi notre cher ami Freddy.
Freddy Mercury ?
Oui, voilà, c'est ça. Freddy Krueger, donc de Wes Craven, Les Griffes de la Nuit, et qui avait été joué quand même, parce que là aussi, il y a quand même La Revanche de Freddy, Les Griffes du Cauchemar, Le Cauchemar de Freddy, L'Enfant du Cauchemar, oui. La Fin de Freddy, L'Ultime Cauchemar, Freddy contre Sort de la Nuit, oui. De nouveau de Wes Craven, Freddy contre Jason, fameuse série On fait les méchants les uns contre les autres, et qui avait été donc joué par Robert Englund. Voilà,
qu'on retrouve dans la série V.
Voilà, c'est ça. Qui était tout gentil hein, dans la série V. Et maintenant, le dernier, il avait été fait par le fameux Jackie Earl Haley dans le remake de Samuel Bayer et qu'on voit sous les traits de Rorschach dans Watchmen.
D'accord. Alors, on peut dire que Freddy Krueger, lui avec un K, c'est le plus acéré. En voilà un à qui on n'a pas appris que des objets coupants étaient dangereux.
Oui, bah tous un peu. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Et bien voilà, le résultat. Des grandes griffes plein les doigts. Et un visage tout brûlé,
voilà.
Car les gens n'ont pas apprécié qu'ils s'en prennent.
Il était fini cramé dans une maison.
Non, ah, c'est dans une chaudière, je sais pas où. Là. On Elm Street.
Voilà, le fameux Elm Street. Mm-hmm. Et moi, ce qui me fait quand même marrer, c'est qu'ensuite, quelques années plus tard, t'as quand même Tim Burton qui sort Edouard aux mains d'argent. Il est quand même pas à s'en rappeler, ce fameux Freddy. Et puis, il faut aussi savoir que l'univers de Freddy, c'est les rêves. Lui rentre dans les rêves, dans les cauchemars, et qui massacre. Voilà, même si toi tu crois pouvoir t'en sortir en croyant, à un moment, il y en a un qui décide d'être un magicien et il essaye. Moi, je me rappelle de cette scène où la nana, elle est dans une salle d'attente et elle finit encastrée dans la télé, quoi. La tête dans la télé à mettre du seul. Et puis, il y a la mort aussi dans Destination Finale. Donc, celui-là aussi, pour en avoir fait quelques résumés, j'avouerai que les morts ont toujours été super efficaces, que ce soit coupé par des barbelés ou...
Il y en a eu 5, je crois, d'ailleurs.
Ouais. Et l'une a été punaisée. Parce que
ouais, tu t'en sors jamais, quoi.
En fait, c'est que tu t'en sors jamais avec la mort. Alors que dans les autres, techniquement, enfin, moi, alors, ça tombe sur ces films, vraiment, de ces tueurs psychopathes. Moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est que l'impression, c'est que, bon, il y a le méchant, le groupe de gens.
Toujours des ados.
Ouais, tu sais à peu près qui c'est qui va s'en sortir. Et qu'à la fin, tu crois qu'il est mort. Eh ben non, il n'est pas mort. Et tu vois, ça, c'est, moi, c'est ce côté redondant dans toutes ces histoires-là où tu dis, ben, il est mort. Ben non, il n'est pas mort. Et hop, on...
Ouais, il faut que, comme ça, il tue encore un ou deux personnages.
Voilà, c'est ça. Non, mais puis, moi, je trouve, enfin, au bout d'un moment, soit tu le fais mourir, soit tu dis qu'il n'est pas mort. Voilà, parce que c'est super chiant, quoi.
Donc, on peut dire juste que, donc, de Destination Finale, c'est la plus fatale. Voilà quelqu'un de très précis sur les horaires. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc la mort ne supporte pas vraiment qu'on la contredise et ne tolère qu'avec beaucoup de difficulté le retard sur l'horloge de notre destin.
Oui, et puis j'ai l'impression qu'elle est un peu plus artistique que les autres, parce que c'est vrai que sortie du couteau de la tronçonneuse ou des ustensiles sur place, ça reste quand même, surtout des films très gore de Wes Craven, de Carpenter. Alors que là, la mort, effectivement, il y a toujours un truc très original, tu vois. Quand les deux nanas se finissent grillées pendant une séance UV...
L'accident de la route était énorme aussi, la scène.
Non, mais voilà, elle est superbement bien faite. Et puis, moi, je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire que ce qui est peut-être plus terrible dans Destination Finale, c'est qu'on ne voit pas le méchant.
Oui.
Alors que les autres, t'as l'impression que tu peux toujours t'en sortir. Après, une fois que t'es attrapé, bon, c'est foutu. Mais il y a toujours un moment où tu as l'impression, et là tu sais pas d'où ça vient, et c'est toujours des...
Ouais, après le problème c'est les suites, quoi, parce qu'après t'as vu le 1, donc tu connais le concept et...
Voilà, c'est ça, moi je... Bah après c'est une surenchère, quoi, il faut toujours faire plus violent,
plus sanguinolent.
Voilà, et puis on tombe dans ces fameux tueurs sans âme, que ce soit Alien, que ce soit Predator, le requin, le piranha. Donc c'est vrai que moi, Alien de Ridley Scott, le premier en 79, le 8e passager, donc celui où... Ben, même si tu hurles dans l'espace, personne ne t'entendra. Et voilà, avec cette fameuse Ellen L. Ripley, Sigourney Weaver, et de toute la suite, Alien le Retour, Alien 3, Alien la Résurrection, de...
Mathieu Kassovitch, Jean-Pierre Jeunet.
Voilà.
Ouais, j'ai gagné la tata. Elle va rester dans l'émission.
Voilà, c'est ça.
Enfin, une voiture de fonction.
Mais c'est vrai que moi, j'ai adoré. Alors, le premier, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième... Un peu moins, parce que effectivement c'est les Marines contre Alien. Après le
troisième, c'est en prison, non?
Voilà, c'est ça, en prison. Et puis bon, la résurrection, celui-là il avait été bien fait, hein. Le French Touch quand même,
ouais, c'était pas mal,
avec Monsieur Pignon
et Salvatore.
Et si, et Salvatore, c'est vrai que moi j'avais bien aimé. Puis au moins là il clôt, quoi. Alors il y avait eu des projets comme quoi il y aurait peut-être un Alien 5, mais pour l'instant ça avait pas l'air. En tout cas, ce sera sûrement pas avec Sigourney. Voilà. Après, parce qu'il y avait aussi dans la lignée le fameux Predator en 1987 de John McTiernan avec notre cher Arnold,
oui,
le gouvernator, qui a rencontré un espèce de chasseur. Donc voilà, c'est en fait un chasseur intergalactique. Il se rencontre et puis il tue des types. Voilà, et puis c'est des Marines. On croit que finalement...
Non, mais ils ne sont pas là à la base, parce qu'à la base, ils devaient récupérer, tu sais, la viande qui s'est scratchée dans la
jungle.
Non,
oui, non, mais voilà, après, c'est
une chasse à l'homme. Ils ont été pris en chasse.
Le dernier, paraît-il, était super bien.
De quoi, le remake là?
Ouais.
Non, il était super mauvais.
Ah
quoi.
Ouais,
ah, je l'ai vu, c'est minable ce truc, quoi.
Ah ouais.
Ils ont bousillé le mythe, une fois de plus. Moi, je préfère celui avec Schwarzy.
Ah d'accord.
Les personnages, ils sont tous mauvais. Enfin bon, il n'y a pas d'âme. Dans ce film, quoi, il n'y a rien. Parce que l'Indien, là, qui est avec Schwarzy, là, le pisteur, là, là, tu vois qu'à la fin, tu sais, il est tout tombé, il va vraiment se battre corps à corps.
Ouais.
Là, tu vois, il y a quelque chose, alors que dans le remake, c'est...
Mais ça, de toute façon, dans tous les films que j'ai vus un peu comme ça, il y a toujours un moment où le mec, il se dit, bon, ben, moi, je fais du karaté ou je fais de la boxe et je vais me le faire corps à corps, alors que tu sais que techniquement, c'est foutu, quoi. Alors bon, effectivement, avec Predator, il y a le côté invisible ou les mecs avec des armes. Bon, Alien, lui, c'est toujours caché. Et puis après, il y a l'histoire de l'œuf. Après, bon, forcément, le requin de Steven Spielberg.
Énorme.
Les Dents de la Mer.
Mmh. Alors, ils vont le refaire, là. J'ai cru qu'ils allaient le faire un relooking au
film. Voilà, c'est ça. Mais alors, disons que moi, je suis un petit peu...
Le 1 est bien fait, moi, je trouve que le 1 est bien fait.
Alors, moi, je suis partagé. Parce que, effectivement, parce que, en fait, techniquement, je veux dire, les trucages, tu le vois que c'est pas un vrai...
Mais attends, non, mais c'est des trucages de l'ancienne époque,
oui,
aussi.
Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, en même temps, bon, le requin, il est dans la mer. Tu vas pas dans la mer. Voilà quoi.
Ouais, mais
basta.
Bon.
Oui, non, mais ça je suis d'accord avec toi.
T'es pas dans l'espace, y a pas d'aliens.
Oui, enfin bon.
Y a pas de film quoi, monsieur.
Oui,
ouais, bravo.
Attends. Non, mais moi c'est surtout le truc.
Y a toujours eu des requins, regarde à La Réunion.
Même
on
dans
peut
la
parler actualité là, la preuve. Hein.
Et même dans la finance, hein, y en a. Voilà, c'est ça. Et puis non, alors par contre, tu vois, alors comme tu disais, effectivement, le premier quand même a marqué sa génération parce que je pense qu'en plus il y avait eu des paniques sur les plages à une certaine époque. Et par contre, alors les suites. Ça fait mal. Hein.
Ouais, le 2 est encore potable, après tout ce qui est 3-4, en fait, ça fait, une piste de ski. Quoi,
ouais, c'est ça, c'est la piste noire même, je dirais. Et voilà quoi. Et moi, je trouve ça dommage parce que, bon, après, c'est vrai que. Bah, disons que ça fait partie des monstres comme les piranhas ou les anacondas où t'es coincé dans un lieu.
Mais ils ont tous fait avec des bébêtes. Hein. Tu prends arachnophobie.
Voilà, ou... c'est ce qu'il y avait aussi une histoire avec des rats.
Ah oui
ouais.
Et ben...
Donc, ah oui, mais toutes les bêtes. Hein. Puis oui. les guêpes, les fourmis.
Anaconda, tu l'as pas vu celui-là?
Si. Alors moi après moi ce que j'appelle les mauvais qui sont victimes.
Ça existe hein?
Oui, tout à fait. Eh ben oui, le fameux Jack Torrance. Tu vois qui c'est?
Oui, Jack Torrance. Je l'ai noté en plus.
Dans Shining.
Mmh. Ah oui, c'est mon préféré. Je pense qu'il tombe dans mon top 5 lui.
Eh ben pas moi, dis donc.
Pourquoi? Attends, il est énorme ce film.
Non, mais moi j'adore hein. Ah. De toute façon Kubrick, j'adore.
Puis,
mais voilà.
Danny.
Non, puis la porte.
Ouais.
Puis le Red Room, Red Room. Ça se tient surtout quelque part, je veux dire.
À la neige.
Non. Oui, à la musique. Parce que là aussi, la musique, elle est terrible. Et puis surtout, quand
l'espace.
Même, à Kubrick. Parce que je veux dire, la façon de filmer, la façon de travailler, tu vois la folie s'insinuer.
Ouais, tu vois ça. Aussi le jeu de Jack Nicholson.
Non, mais ça, je suis d'accord avec Jack Nicholson. De toute façon, j'en reparlerai deux, trois fois de lui, parce qu'effectivement. Il fait partie de ces personnages qui adoraient.
Il a fait plusieurs méchants.
Ouais. Je dirais, ouais, limite.
Pas
de
des
folie.
Méchants, ouais, mais limite folie. C'est
voilà,
ça que tu voulais dire?
Voilà, tout à fait.
Donc, vous prenez un hôtel immense en haut d'une montagne en plein hiver. Trois personnes dedans. Rien à l'horizon. Il y a de quoi devenir dingue. C'est exactement ce qui arrive à ce pauvre Jack Torrance, écrivain sympathique au demeurant, mais un peu limite, lorsqu'il croise une hache.
Puis même, là, l'histoire du massacre qui a eu lieu dans l'hôtel. Ce qui est
des fois, on s'y perd un peu, non, avec les apparitions de la petite fille. Là.
Ouais, ben, moi, je dirais que c'est le talent de Kubrick de ne pas faire un film gore, quoi. Comme avec tous ceux qu'on a cités précédemment. Mmh. C'est-à-dire que là, il distille le truc et c'est là où ça marche. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce film. La musique d'entrée, elle est superbe. Voilà, et moi, moi, alors, c'est dommage, il fallait faire un listing. Moi, il est tombé au numéro 9. Voilà.
9 moi, non, il est dans au moins top 3 maintenant. Allez, je change.
Ouais. Moi, le premier, c'est sûr. Après les autres, donc ce fameux Jack Torrance, moi, je dirais, mon numéro 8, Alex Delarge. On va rester dans
Alex Delarge.
Ouais, on va rester
dans Orange Mécanique.
Voilà,
ah bon,
c'est
oui.
Ça. Bah là aussi, parce que tu vois.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est ce type qui est capable de viol, qui vit avec ses copains, les droogies.
Mm-hmm.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même tiré d'un livre d'Anthony Burgess, qui était quand même un espion russe. Hein, il faut le savoir. Et donc, en fait, c'est très marrant parce qu'il était, je pense, peut-être surveillé, mais il laisse quand même filer pas mal de perles. Dans Orange Mécanique, parce que les droogies, ça vient du mot russe droog, qui est devenir ami. Et tu sais, quand ils boivent leur fameux cocktail Molotov, là.
Mm-hmm.
Et en fait, en russe, ça veut dire lait. Les speedés, quoi.
D'accord.
Et donc, il y a cet argot tout à fait entre anglais et russe. Et ce passage où il tabasse le vieux, la scène du viol. Voilà, et à un moment, moi je dirais qu'il est victime parce qu'il trouve plus fort que lui, c'est cette fameuse société pénitentiaire.
Je crois que c'est ça, oui, parce qu'il n'est que le symptôme d'une société qui est bien plus violente que lui.
C'est-à-dire qu'à un moment, lui, c'est une jeunesse désœuvrée,
ouais.
Comme on en connaît tous. Je pense que c'est surtout l'ennui qui le pousse à faire ça, et qu'une fois qu'il tombe sous les coups de la police, ben là c'est autre chose. Quand il retrouve ses camarades et qu'il le tabasse, je veux dire, c'est terrible ça. Mm. Ou même quand il revient et qu'à un moment ils le font écouter le fameux Ludwig von, et que lui il peut plus, même plus l'écouter, quoi. C'est terrible, quoi. J'étais à deux doigts de le mettre dans le charismatique, parce que c'est vrai qu'à un moment t'as même pitié de lui. Au début tu dis il est dégueulasse, voilà, et puis d'un coup moi, quelque part t'as un petit peu de la peine pour lui à la fin. Mais qu'à la fin,
oui, ça n'engage que toi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite, moi c'était mon top 2, hein, et même
top 2.
Ouais, top 2. Enfin, ils étaient
Top Gun.
Ils étaient deux top 2, c'est que ce soit Voldemort de Harry Potter et le fameux Dark Vador de Star Wars.
Dark Vador, tu l'as mis en premier ?
Non, je l'ai pas mis en premier.
Bon, qu'est-ce qu'il a de méchant, Dark Vador ?
Ah bah si, quand même.
Non, il a rien de méchant, lui.
Il a rien de méchant.
Dans aucun film, tu vois sa violence ou...
Ah non, mais juste à un moment, il...
On doit pas parler du même.
Il étouffe un type et tout. Non,
ah
non.
Ouais, non, mais ça, il y a pire, moi, je trouve. Quand même.
Ah non, mais c'est juste qu'à un moment, il est quand même... Ah, le héros de l'Empereur, c'est quand même pas rien. Je veux dire, voilà, le mec, il dirige la moitié de l'espace connu. Enfin, connu dans le film. Hein. Donc voilà, quoi.
Pour moi, Dark Vador, c'est juste quelqu'un de sombre avec son petit costume pompeux, tout noir, et son étoile de la mort. Dark Vador, au fond, c'est quoi ? C'est juste un papa comme un autre qui recherche ses enfants.
Oui, enfin, techniquement, alors, c'est le seul truc que j'ai un peu un problème dans le film, c'est qu'à un moment, il apprend que ses enfants sont morts.
Pour les protéger, ils ont...
Au début, ouais. Non, mais lui, ça lui paraît naturel. Il n'y a pas un truc où il dit « Oh, bah merde, on nous a caché un truc, quoi. »
Ouais, voilà, il faut penser qu'il est dans le côté obscur, aussi.
Oui, non, mais voilà, c'est pour ça
qu'il est soumis à l'empereur.
Moi, je dirais qu'il est victime, parce qu'effectivement, quand Erwan McGregor...
Non, il a le choix, quoi. Regarde bien, là, quand tu sais, il y a le... Comment il s'appelle ? Celui qui joue, là, quand il va tuer l'empereur, là, dans les nouveaux. Ouais. Et alors, t'as vu, il choisit. Mais Anakin, il choisit d'aider.
Oui, mais il choisit parce que.
C'est un choix, on est
oui,
d'accord.
Oui, mais
c'est un choix.
Non, parce que le problème, c'est que l'empereur l'a bien fait pousser parce que lui, il voyait que Padmé allait mourir. Et donc, il voulait la ressusciter. C'est là où il est victime. C'est-à-dire que lui, pour sauver sa femme, et non, comme parce que
dès
ça lui
rappelle. De toute façon, il y a de la violence en
oui,
lui.
Mais voilà.
Vu, quoi.
Oui, mais parce que le fameux coup où sa mère tombe.
Décède,
voilà. Et qu'il était loin et qu'il n'a pas pu, et qu'ensuite il va massacrer. C'est là
voilà,
que commence déjà le problème.
Alors que là, il aurait pris un psychologue. Tout de
oui,
suite, il
tout
aurait.
Tout à fait, une bonne psychanalyse, oui. Et c'était bon. Et puis voilà. Ici.
Non, moi je pense là où vraiment on peut dire que les méchants gagnent, c'est dans le 2. Là. Mm. C'est l'Empire contre-attaque. Mm. Bah attends, ils perdent tous. Là, Yann Solo, il est congelé.
Voilà.
Comment il s'appelle ?
Luc.
Luc, merci. Il perd sa mimine. Ah. Donc c'est quand même une fin tragique, là, je trouve, pour,
oui, mais
pour les rebelles.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Oui, mais ça, c'est naturel dans les films.
Là, je pense que c'est le seul film où on voit que la... Enfin,
logiquement,
trilogie Star Wars.
Oui, parce qu'on en avait parlé de Erwin Kershner qui avait fait un James Bond, et on avait dit que le Empire contre-attaque était considéré comme le meilleur des Star Wars. Mais non.
On peut dire que Dark Vador, non, moi je crois pas qu'il soit.
Ah, si, si. Bah si, il a un rôle de méchant.
Oui, bien sûr, il a un rôle de méchant, mais après aller le mettre en haut des nues.
Parce que
il est pas si effrayant que ça. Quoi.
Non, mais j'ai pas dit qu'il soit effrayant ou voilà, parce que je veux dire, à ce moment-là, tu peux prendre Alien, tu peux prendre et le mettre premier. Parce qu'on peut faire un Alien contre Vador, un Predator contre Voldemort. Voilà, c'est juste qu'à un moment, ça a sa popularité aussi. Je veux dire, quand on parle de méchant. Bah, on fait toujours penser à Dark Vador. Alors, évidemment, il étrit pas des types, c'est pas Ken le survivant. Oui, effectivement, il fait pas des camps de concentration. Voilà, il y a un truc. Mais pour lui, il représente le méchant.
Oui.
Et moi, je dirais surtout victime. Et c'est comme Voldemort, parce que Voldemort, tout ce que Tom Jedusor, lui, tout ce qu'il voulait, c'est le pouvoir. Et on sait que le pouvoir corrompt. Puisque ça a été aussi un peu le cas de Dumbledore, parce qu'il n'est pas très clair aussi sur son passé. Et c'est
tout surtout... ce qui finit en or. Hein.
Ouais, c'est ça, oui. Et puis, c'est surtout que là, on se retrouve dans le cas classique, c'est-à-dire que le méchant ne pense qu'à son adversaire, donc Harry Potter,
oui.
Et qu'il y a de nombreuses fois où ses collègues auraient pu le tuer, et que, bah non, il fallait le garder en vie pour que Voldemort puisse le tuer, et que c'est finalement ça qui l'a buté, quoi. Donc voilà.
Ouais, moi, mais de toute façon, il avait que deux passions dans la vie, Voldemort. Les serpents et tuer Harry. Hein.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, mais tout à fait. Et moi, je dirais que c'est une victime parce que quand tu regardes, le truc, il a rien fait, quoi.
Ouais, mais il est quand même laid de base. Hein.
Ah, ben ça, il est laid, oui. Non, mais ça, après. Non, mais
on
ça,
peut
c'est.
Il pas être gentil comme ça.
Non, c'est vrai.
Il n'y a pas un physique attachant.
Ah, non, ça, il est pas. Non, c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment mis dans le charismatique. Hein, parce que voilà, c'est pas un type qu'on a envie de garder comme ami.
T'en as que ça ?
Non, moi je voulais aussi parler...
En victime, je sais pas ce qu'il peut y avoir.
Non, non, j'avais aussi le fameux... Alors, c'est un peu difficile de faire des classements pile poil parce qu'on joue un peu sur la victimisation et en même temps pas vraiment, parce que voilà, là aussi les méchants sont aussi tordus, parce qu'il y a aussi le fameux Harry Powell de La Nuit du Chasseur.
Oui.
Avec Robert Mitchum.
Ah oui,
voilà,
oui.
Que, non, parce que c'est en fait pour faire un synopsis, parce que c'est vrai que c'est un film assez ancien quand même, de 1955, de Charles Laughton. Lors d'un court séjour en prison, Powell a comme compagnon de cellule Ben Harper, pas le chanteur. Hein. Un homme désespéré qui, pour sauver sa famille, a commis un hold-up. Powell cherche à le faire parler, il aurait mieux fait de le faire chanter. Pour savoir où se trouvent ses 10 000 dollars, on voit qu'on est en 55, hein. On sait maintenant combien il demande en rançon. Mais celui-ci ne cède pas. Le prêcheur va voir la veuve de Harper, puisque celui-ci a été pendu, elle l'épouse, et alors lui, ce fameux révérend, va pousser les enfants John et Pearl à avouer où est l'emplacement du magot. Et c'est là vraiment un film sur la dichotomie, fameux. La dichotomie du bien, du mal, du jour, de la nuit, des enfants, des adultes. Et puis on voit sur les fameux doigts du révérend, love and hate. Pas besoin d'argent, comme le fameux Big B dans Transpotting, Robert Carlyle. Oui. Là, ce dangereux désaxé là, qui est complètement ben, voilà, sous le fait de la drogue, et ben, lui, il est complètement barré. Ce fameux film de Danny Boyle en 1996, issu du livre de Irvin Welsh. Voilà, et Gollum aussi, Gollum, victime. Victime du pouvoir de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux.
Nous devons avoir le précieux. Ils nous l'ont volé. Sale sournois petit hobbit.
Mais il est pas méchant, lui.
Il a deux personnalités. Il y a une personnalité qui est méchante et une personnalité Sméagol.
Non, pas le maître.
Sméagol qui lui est gentil. Qui, finalement, tu vois, si à un moment il avait pas eu une petite truc, je pense qu'il aurait.
Une petite truc?
Bah, à un moment, il a un choix à faire.
Ah, et on revient au choix.
Bah oui, parce qu'à un moment, il a ce truc où il aide Frodon et je pense qu'il le aide sincèrement. Bon, en sachant que pertinemment, il y a quand même l'anneau en.
Oui, bien sûr,
il
y a toujours l'anneau.
Il y a toujours l'anneau. Mais voilà, mais il va quand même l'aider. Et c'est parce qu'à un moment, Sam s'énerve. Et qu'il est trahi, qu'il est capturé là et qu'on on le tabasse, c'est qu'à un moment, bah, son côté méchant revient. Et c'est là où il est de nouveau perdu. Quoi.
Ce personnage sympathique, nous le retrouverons en décembre 2012 avec la sortie de Bilbo.
Ouais, et celui-là, il faut absolument le voir. Donc, on va en tomber dans les
charismatiques.
Donc, eh ben, moi je dirais. Moi je ne vais pas attaquer mon premier. Donc j'attaquerai par Bill the Butcher dans The Gang of New York. Parce que de toute façon, déjà c'est Daniel Day-Lewis qui est complètement charismatique déjà par ses personnages, que ce soit dans Le Dernier des Mohicans ou The World of Bill Blood. Franchement, lui de toute façon, déjà il est génial comme acteur. Donc moi, déjà j'adorais. Et puis ce rôle, effectivement, de cet être raciste, violent, puisque le début c'est quand même une histoire de guerre pour conquérir les fameux Five Points. Et moi j'ai. Voilà quoi. Et puis ce fameux œil de verre avec son aigle confédéré.
Non, mais ce film est grandeur.
Ah oui, mais ça montre l'amour que Martin Scorsese a pour New York. Quasiment tous ces films ont lieu à New York. Donc voilà, moi c'est-à-dire que ce personnage-là, au début, tu apprends à le détester parce que finalement, quand tu vois le personnage d'Amsterdam, Leonardo Di Carpaccio, je veux dire, à un moment, forcément, je veux dire, t'as presque plus envie d'aimer Bill the Butcher que l'autre, il paraît pas d'à côté. Quoi.
Il faut le dire, Gwen n'aime pas cet acteur, c'est quand même DiCaprio son vrai nom. Hein. C'est sa jalousie parce que lui, il a réussi sa vie. Donc, moi, je vais parler, le plus fan de Strudel.
Avez-vous goûté le Strudel ici? Il n'est pas si mauvais. Oui. Deux Strudel. Un pour moi et un pour la demoiselle. Pour moi, un café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait.
Tu connais pas?
Non.
Non, il s'appelle Hans.
Hans Landa.
Ah, Landa, da sind sie ja.
Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la première.
Voilà.
Ah oui,
Inglourious Basterds.
Bah voilà, moi je l'ai mis en 6.
C'est vrai? Ah non, il fallait le mettre en premier. Il est bon.
Ah bah non, moi
ils sont tous premiers. Comme ça, au moins, c'est comme à l'école des fans.
Voilà, c'est ça.
Ils ont tous un cadeau à la fin.
Une hache, une tronçonneuse.
Oui. Donc, manipulateur, méchant, sadique, obsessionnel, impulsif, polyglotte. Enfin, tous ces adjectifs vont à Hans Landa. Cet horrible nazi, d'Inglorious Bastard, tue pour le plaisir, ne supporte pas qu'on lui résiste et n'a d'intérêt que pour lui-même. C'est pas merveilleux?
Ah ouais.
C'est le méchant parfait.
Déjà au début, quand il interroge le fameux Perrier Lapadie, rien que sa façon de parler, tu vois qu'il tient le pouvoir.
Oui, oui.
Et c'est, moi, c'est là où je trouve qu'il est fantastique. Alors par contre, ça a été dommageable pour Peter.
Surtout pour sa fin, quoi.
Oui, oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai entendu parler comme quoi il était tué à la fin.
Ah oui?
Alors que pas du tout.
Non, logiquement... pas, non, il lui fait une croix, je crois, non,
ouais,
sur le front.
Il lui fait une croix gammée sur le front, alors que non. Mais moi, j'ai
pas
vu.
Il fallait pas dire la fin. Bah, il est pas sorti en DVD.
Ah bon?
Non, c'est pas.
Putain, je me suis dit putain. Non, s'il est pas, et si celui-là, il est pas sorti en DVD, parce que Quentin, les Quentin Tarantino, quand même, parce que le fameux Christoph Waltz, qui donc jouait ce rôle de.
C'est
Hans
une
Lander,
histoire d'eau, ça.
Voilà.
Perrier Waltz.
Oui, c'est vrai. Et ben, moi, je trouve que ça lui a été préjudiciable. D'un côté, ça le fait connaître du grand public, mais après, il a fait un autre film où il jouait, il essayait de faire un méchant pareil. Et il est complètement minable.
Ah oui, c'est minable.
Et là, toi, il essaie de récupérer le personnage de Hans Landa, et par contre, il est minable. Vous voulez parler de
Antoun. Antoun.
Antoun. Ah oui, Chigurh. Oui.
Chigurh.
Chigurh, ouais.
The No Country of Old Man.
Le tueur.
Oui, on le connaît tout de suite parce qu'il a la coupe à Mireille Mathieu.
Ouais, c'est ça, moi j'ai appelé Mobile, ouais. Javier Bardem.
Oui, donc, après une coupe de cheveux similaire à celle de la demoiselle d'Avignon et une véritable passion des fusillères comprimées,
oh oui,
le monsieur ne paraît pas très stable. Et pourtant, c'est avec un calme olympien qu'il va poursuivre sa proie pour arriver à ses fins. Comme quoi, on a tous tendance à juger un peu vite.
Oui, oui, puis en plus, il laisse le choix. Parce que tu sais, quand il rentre dans un petit magasin, il laisse le choix au type si...
Oui, oui, avec sa pièce.
Voilà, c'est
ça. Ça y est, ça me revient.
Donc, tu vois, c'est ce côté-là. Parce qu'il y a le plus connu quand même des charismatiques, qui n'est pas mon premier, mais mon quatrième.
Le fameux... Et oui, vous n'êtes pas des chiffres et des lettres.
Voilà, le fameux Hannibal Lecter.
Oh là là, tu l'as pas mis en un? Moi,
non,
je crois que c'est mon premier, ça.
Ah ouais.
C'est mon cuisinier préféré.
Avec Maïté, oui, parce que là aussi, il tabasse, mais c'est du type. Mais voilà, parce que lui, Hannibal Lecter, où il y a quand même un pas mal de films là-dessus, quand même.
Mon plus fin gourmet.
Il y en avait tout plein parce qu'il y avait
Machin rouge là.
Ouais, le dragon rouge.
Voilà, dragon rouge.
Voilà.
Ça c'est le 2 je crois.
Et puis
le 3 c'est le dernier Hannibal.
Voilà, c'est ça. Il y a Hannibal Lecter, Les origines du mal, où c'est joué par Gaspard Ulliel. Voilà,
ah
c'est...
oui.
Ouais, ouais, ouais,
oh là là, il a dû massacrer le personnage.
Voilà, parce que il y avait et le sixième sens de Michael Mann en 1986 qui est un peu la redite de Dragon Rouge.
D'accord.
Mais il faut pas confondre d'ailleurs le sixième sens et sixième sens. C'est génial.
OK.
Il y en a un avec le S majuscule et l'autre le S minuscule.
Donc, monsieur a du goût. Monsieur est un aristo aux babines délicates et monsieur ne souhaite manger que de la chair humaine. Et comme aucun restaurant n'en propose, il doit en trouver lui-même. Logique.
Oui, tout à fait. Et puis même...
Non, mais puis c'était... même toutes ces phrases, toutes ces allusions, enfin bon, moi je trouve
et
que
puis,
c'est
énorme. Mais c'est comme Hans Landa aussi, ou même Anton, c'est-à-dire que le mec, il maîtrise.
Mm.
Enfin, on n'est plus au type qui massacre ou qui est complètement fou comme Jack Torrance. Lui, il maîtrise complètement.
Puis il est merveilleux là.
Et puis Anthony Hopkins, il est génial. Mais c'est vrai qu'il donne une classe,
oui.
Un peu cette fameuse classe de majordome qu'il avait eu dans d'autres films.
Les vestiges du jour.
Voilà, c'est ça. Et retour à Old World Ends. Voilà. Et c'est
des chefs-d'œuvre aussi.
Oui, et ben, c'est-à-dire que on tombe dans ces fameux, ce que les agents du FBI connaissent, c'est-à-dire ces fameux tueurs qui sont supra-intelligents. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont, ils ont, et très dangereux, parce qu'ils sont capables de tuer, mais comme ça, et en même temps, ils possèdent un savoir et une culture qui écrasent tout le monde.
Ouais, mais lui, si personne l'emmerde, c'est pas, je pense, que quelqu'un a tué, lui. Hein.
Non, bah oui, non, mais c'est toujours
après,
pareil.
Après, si tu le suis, si tu, tu vois...
Non, mais je pense qu'il...
Oui, Hannibal, c'est ce qui se passe avec le flic italien, là.
Oui, non, mais d'accord, mais il tombe aussi dans ce côté-là où... c'est-à-dire que c'est pas un mec supra-violent. Bon, sauf quand il se libère, parce que là aussi, c'est un peu... On a tous en nous un moment...
Quelque chose...
De Tennessee,
merci.
Ouais. Et qui nous empêche un peu cette morale judéo-chrétienne, voilà. Et lui, il l'a pas. Enfin, s'il faut tuer, ben il tue. Il n'y a pas un truc comme Anton ou... Voilà, tu vois, c'est ce côté-là. Mais lui, il a une classe. Parce que moi, si je voulais parler, je ne sais pas si tu connais Amon Goeth.
Amon Goeth ?
Ouais. Alors non. Là, moi, on tombe dans le cadre d'un méchant qui a réellement existé. C'est en fait qui était un Obersturmführer et le commandant des camps de concentration de Plaszow, près de Cracovie et qui a été surnommé le boucher d'Hitler. Il amasse de l'expérience dans les camps d'extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka. Et c'est contre de l'argent qu'il offre à Schindler, donc dans la liste de Schindler, le droit de libérer des juifs. Voilà. Et ensuite, dans l'histoire, il sera arrêté par la Gestapo et il finit dans un sanatorium parce qu'il est considéré comme complètement fou. Et c'est, c'est là où les Américains le trouveront et le pendront. Quoi. Et il a été joué par Ralph Fiennes Voldemort.
Et le film, il s'appelle comment, tu dis ?
La liste de Schindler de Steven Spielberg.
Ah, ok.
Voilà.
Ah, il est dedans, toi, je m'en souviens.
Oui, et c'est Ralph Fiennes. Et voilà, et lui, il a donné finalement ce côté un peu charismatique. Alors, c'est vrai que c'est plutôt très malsain parce que là, on tombe dans des personnages historiques et c'est là où c'est terrible. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu arrives à ces personnages qui sont capables de tuer, parce que lui, il est en fait le vrai, hein, Amon, il faisait tabasser les types et si jamais, et il comptait à haute voix, si jamais il se gourait, il recommence à zéro. Et c'était sans coup de bâton. Hein. D'ailleurs, il y avait une phrase qui était dit voir Goethe. C'était voir la mort. Mais c'est là où le cinéma est terrible, c'est-à-dire que des Hannibal Lecter, des Jack Torrance, des Anton et autres.
Il y en a plein chaque année, ça.
Mais ça sort des bouquins, ça sort de l'imagination d'un
réalisateur. Non, ça existe aussi. Hein.
Oui, mais ça existait, puisqu'on la FBI en a plein ces dossiers de tous ces tueurs en série, puisque finalement.
Et tous ceux qu'on ne connaît pas.
Oui, parce qu'Hannibal Lecter, à un moment, il y a le fameux Buffalo Bill là, qui se faisait des habits en peau de femme. Voilà, mais lui, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Et tu vois, et là, on a quelque chose. Et c'est là où l'être humain est terrible, parce que tu dis que t'as un moment, t'as une pouvoir. C'est comme cette fameuse dame qui a le pouvoir. Et parce que là, on a quand même parlé beaucoup de masculin, très peu de féminin. Il n'y a que deux femmes, moi j'ai retenu. La fameuse infirmière Mildred Ratched dans Vol au-dessus d'un nid coucou. C'est-à-dire cette infirmière qui a le pouvoir sur des malades et qui veut à tout prix.
La spécialiste d'électrochoc.
Voilà, c'est ça. Et qui veut à tout prix.
Là aussi, Jack Nicholson.
Voilà, c'est ça. Qui veut convaincre Jack Nicholson, en fait, n'est pas fou et qu'il simule juste pour s'échapper à la prison et finira lobotomisé.
Mort même.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'il est étouffé par l'Indien.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que cette infirmière-là, elle a la toute-puissance sur des malades. Là aussi, on est dans le pouvoir. Comme Amon, lui, dans ses camps de concentration, elle est dans son truc interné et elle a le
surtout
pouvoir.
Surtout à l'époque.
Voilà, c'est
ça. Années 80, 75, 80.
Oui, on était dans. Parce qu'il y a eu la.
On était dans l'expérience, là.
On était dans la période, que ce soit électrochoc, et ensuite, il y a eu la fameuse lobotomie. Donc, dans les hôpitaux psychiatriques, on a essayé. Et puis là aussi, on retombe un peu dans le truc des nazis, puisque aussi, ils avaient fait des expériences dans les camps de concentration. Donc voilà, il y a celle-là. Et puis, il y a la fameuse Axel Forrest. Dans
Misery.
Non, c'est dans les liaisons faciles. C'est son fameux coup où elle tue le lapin.
Ah bah tu vois, il y en a une troisième.
Voilà, c'est ça.
Infirmière dans Misery.
Oui, tout à fait, aussi. C'est vrai, c'est pas faux.
La fanatique de bouquins qui chope son écrivain favori.
Et qui lui pète les deux Huggy Ball.
Voilà, faut pas partir. Hein. Bah, elle est pas partie.
Non, mais voilà, c'est ça.
Manque de chance pour le shérif aussi.
Voilà, c'est ça. Et puis même Alex Forrest, qui est joué par Glenn Close, qui est spécialiste des méchantes, puisqu'elle joue à la Madame de Merteuil dans les. Bah, là aussi.
Dans les 101 Dalmatiens aussi. Elle fait la méchante.
Voilà, c'est ça. C'est dans les liaisons fatales et dans les liaisons dangereuses. Mm. Comme quoi. Elle, les liaisons, elle connaît beaucoup.
Oui, elle a souvent eu des rôles de.
Et là, elle est complètement folle. C'est-à-dire, c'est une femme délaissée par son amant qui préfère finalement rentrer au bercail. Et elle va leur faire d'ailleurs une misery. C'est peu de femmes. Alors voilà, on en est. Et puis, c'était, je pense, aussi les années 80, un peu la libération de la dame, de la femme. Quoi. Puis,
Il y avait aussi l'Auberge Rouge, pour être régionaliste.
Oui, tout à fait.
Qui a réellement existé, qui était en Ardèche.
Voilà, c'est ça aussi. Ouais,
on se souvient bien. Enfin, moi, je parle du premier film parce que le deuxième, là, avec
Gérard Jugnot et tout. Ah non, il est minable celui-là.
Et Suzanne Balasco, non. Voilà, je préfère le premier avec Fernandez.
Ouais, tout à fait, moi aussi. Même si, bon, après Fernandez, ça, je trouve que.
Après, en France, t'as d'autres exemples de méchants, toi ?
Si, il y avait le prophète.
Et... Après, on a notre célèbre Jacques.
Jacques.
Ennemi public, numéro 1.
Ah oui, Mérine. Oui. Jacques Mérine. Mmh. C'est vrai, aussi le côté charismatique de.
Oui.
Voilà, c'est vrai, comment il s'appelle, de Vincent Cassel. C'est vrai que là aussi... Hein.
Abattu lâchement par la police, port de Clignancourt.
Voilà, c'est ça, ouais. Bah, en même temps, c'était eux ou lui, hein, quelque part. Bon, après... Bah,
tu rigoles ou quoi ? Ils l'ont cerné, ils ont dépillé le camion, ils étaient avec des...
Ah non, mais je te dis...
Ils ont mitraillé le PLO.
Non, non, mais à ce moment-là, mais comme ça a été pour Bonnie and Clyde, hein, pareil. Oui. Mais c'est-à-dire qu'on a préféré l'abattre que le mec qui réplique, parce que là, après, on savait pas où ça allait.
Oui, parce qu'il y avait la légende qu'il avait toujours une grenade sur lui.
Oui, mais voilà, c'est ça, il y avait ça aussi. Pour en venir, on en était où ? Parce que là, on se barre dans des trucs.
Non, on faisait les femmes les méchants.
Voilà, les femmes...
Il y en a d'autres, je pense, monsieur.
Ah non, mais il y en a sûrement d'autres.
Prends tous les personnages de Disney au début.
Oui, mais il y a aussi la fameuse reine.
Oui, mais toutes. Regarde, il y a quoi ? Il y a Cruella.
Oui, il y a Cruella.
La reine, là, comme tu dis. Il y en a d'autres. Là, Mrs. Pym, dans Merlin l'Enchanteur.
Voilà, aussi, c'est vrai. C'est vrai
qu'il y en a plein, quoi.
Est-ce que
Disney était misogyne ?
C'est bien, parce que toi, au moins, tu peux le dire. Mais... Non, et puis pour retomber un peu sur nos...
Non, me tombe pas dessus.
Non, sur notre sujet et sur nos pattes, les héros charismatiques, on a aussi les vampires, Dracula et Lestat. Que ce soit dans Dracula, le film de Francis Ford Coppola avec Gary Oldman, et puis Lestat dans Entretien pour un vampire, Tom Cruise, qui a un peu ressuscité, d'après le livre de Anne Rice, et qui a ressuscité le mythe du vampire et charismatique. Et pas comme on avait fait, où c'était surtout sanguinaire et sexuel.
Voilà. Je sais pas, après il y a aussi Gordon... Gecko, non, ça dit quelque chose.
Si, ça me dit quelque
le
chose.
Le plus trader.
Oui, Michael Douglas.
Dans Wall Street, parce qu'on peut dire que c'est aussi, bon, c'est pas un méchant, c'est un méchant des plus actuels, je veux dire. Il a bien compris qu'il y avait plusieurs façons de faire mal à quelqu'un sans en passer forcément par le meurtre. Ruiner une personne, voire une nation, avec la théorie de la cupidité est bonne.
Oui, mais voilà, puis il y avait aussi, parce que tu te rappelles pas de ce film, là, où il partait en sucette, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle.
Et à la fin, il veut se suicider, là, il est au-dessus de...
Oui, tu sais, quand il arrive dans son...
Ça se passe à San Francisco, ça. Hein.
Il est complètement barré, et puis il arrive dans le McDonald's, il veut un McMorning, et puis que le mec leur dise, maintenant, c'est passé, là...
Parce que le début du film, ça commence, il est pris dans un bouchon.
Voilà, c'est ça.
Il se barre, oui.
Voilà, c'est ça. Parce que
je pense aussi, celui-là.
Ouais, il est énorme. Parce que, tu vois, c'est ce truc aussi de la pression sociale.
Dans le monde
sociale.
Des affaires, ouais.
Parce que dans American Psycho, Christian Bale, qui est aussi un tueur de femmes, et qui est complètement barré, lui aussi, et qui finira très mal, quoi. Donc on a pu mettre dans les victimes. Donc voilà, il y a tout ça. Et moi, vous m'excuserez, mon charismatique, moi, le number one pour moi, it is the Joker de Christopher Nolan, The Dark Knight. Voilà.
Ah ouais ?
Ah ouais, parce que voilà, moi, le rôle de Heath Ledger, pour moi, il a complètement éclipsé le rôle de Christian Bale dans Batman. Moi, un méchant qui arrive à être quand même plus charismatique que le héros, où tu sais pas où il va, le fameux coup du crayon.
Il est mort d'ailleurs, non ?
Oui, mais il est mort après. Ouais. Parce que tu vois, il a tellement bien joué son rôle, je pense que lui, il était un peu limite, et je pense que ça lui a été fatal quelque part.
Ah, mais c'est suicidé, lui ?
Oui.
Ah, je savais plus.
Non, voilà quoi. Et et c'est là où tu vois le méchant. Il a ses phrases cultes, pourquoi cet air si sérieux, et il est capable, voilà, c'est le clown du chaos dans la ville de Gotham City. C'est-à-dire, il est capable de tout, il est capable de bousiller les méchants, et lui, il est même plus fort que ça, c'est-à-dire que lui ne fait même pas pour l'argent, parce qu'il le crame l'argent, c'est surtout pour le désordre. Et il est comme l'homme de verre dans Incassable, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un adversaire, et son adversaire, c'est Batman, et il va même le sauver, quoi. Tu vois, c'est ça qui est quand même terrible. Comme Voldemort avec Harry Potter, c'est-à-dire que quelque part, ils ont besoin, parce que gentil. Il a besoin du méchant, mais le méchant, il a besoin du gentil aussi. On arrive à un moment où, effectivement, dans les films passés, c'était vraiment une confrontation, puis on cherchait pas...
Ouais, c'était manichéen. Hein.
C'était manichéen hein. À outrance. Les sbires, c'était des débilos qui mettaient tout en soum-soum-sou et qui niquaient les plans. Et là, on arrive à une psychologie où même pour le gentil, comme c'est le cas pour Batman, où on se demande si finalement, c'est pas lui le véritable méchant. Parce que le Joker, lui, tout ce qu'il veut, c'est la liberté et le chaos. Il est donc l'anarchie.
Donc moi, je vais finir avec les trois, ouais, des plus connus, on va dire. Donc par notre célèbre Kill Bill.
Oui, Bill.
Donc Bill... C'est un... Bill possède donc une brigade de tueurs à sa botte de cow-boy, de quoi prendre le melon et de penser qu'on est au-dessus des lois. C'est pour ça que quand quelque chose ne lui plaît pas, il tue. Parlez-en à la mariée, elle verra très bien de ce que l'on veut dire. Le deuxième, c'est le plus boiteux, Kaiser Soze.
Ah oui, Kaiser's Usual Suspect.
Yes.
Ah ouais, celui-là, il est excellent. Eh ben d'ailleurs, voilà, donc parce que je parlais ensuite de...
D'accord. Donc il est malin, manipulateur et menteur de génie. Voilà. Ce fou furieux sous son air tranquille de petit loser, on va dire, se cache bien une forte tendance à la violence.
Oui, tout à fait. Et ce qui
tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on disait que dans son cadre, il y a des gens qui disaient « Eh ben, moi, je crains Dieu, mais finalement, j'ai encore plus peur de Kaiser Soze. » Donc voilà, c'est ça. Et ça me fait penser, alors peut-être que c'est ton troisième, mais parce qu'on est dans les Kevin Spacey, et moi, c'est John Doe de Seven. le tueur catholique, contre Brad Pitt et Morgan Freeman, dans cet univers qu'on aurait pu dire à la Blade Runner, où il pleut tout le temps, où c'est fait très noir.
Encore un méchant qui gagne.
Et un méchant qui gagne en plus. Et c'est surtout, ou même, enfin, qui gagne contre lui-même. Oui. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il est tellement psychoté, c'est-à-dire qu'on tombe dans les fameux tueurs en série qui sont monomaniaques. Et donc lui, il est ultra-catholique, et donc pour lui, l'homme est mauvais. Et alors que dans Hannibal Lecter, c'est un peu mais plus nombriliste. Quoi.
Et donc mon dernier, je dirais, c'est le plus joueur, Jigsaw.
Oui, c'est pas faux. Oui.
Donc vous ne savez pas profiter de la vie, vous n'êtes pas quelqu'un d'excessivement recommandable et il faut vous mettre dans le droit chemin. Pas de problème, Jigsaw est là. Prêt à tout pour vous divertir avec ses petits jeux à se fendre, littéralement, la poire. Et il sera toujours là pour vous faire passer un moment inoubliable, souvenir mortel garanti.
Et puis moi je
voulais... Le 1, moi je conseille voilà. Que le 1, de toute façon,
oui,
non, parce, qu'après le reste...
Oui, parce que le 6, le 7, oui. voire même le 1 en 3D. Moi je voulais parler aussi de 3 qui se rejoignent, l'agent Smith de Matrix.
Oui.
Parce que c'est ce fameux programme qui devient indépendant puisqu'il a été libéré quelque part par Neo et qui veut devenir, je ne dirais pas calife à la place du calife, mais tout comme. Le Terminator...
Oui, pareil.
Que ce soit le premier avec Arnold Schwarzenegger, le T-1000 et le TX, la fameuse nana. Le T-1000, c'est le fameux polymorphe.
Oui, oui.
Voilà. Et ça aussi, puisque c'est l'univers de la machine. Et l'ordinateur le plus méchant, le fameux HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, encore Kubrick.
Oui.
Et qui a été tiré d'un roman de Arthur C. Clarke. Donc, voilà. Et c'est l'ordinateur qui a fait une connerie. Et qui veut pas, alors qu'il paraît être infaillible, et il va devoir tuer les êtres humains pour pas qu'il réalise qu'il a fait une bourde. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il se met en fameux Dieu le Père.
Donc pour toi, le numéro 1, c'était ?
Moi, c'était le Joker.
D'accord.
Et toi ?
Moi, je pense que c'est Hannibal.
Oui, oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que.
Bah, tu n'as pas le choix, hein, même si tu n'es pas
d'accord.
Non,
mais c'est pas ça, parce qu'on se retrouve vraiment très bien. Parce qu'il y a ce côté-là où je dirais, le mien, donc mon champion, c'est vraiment le truc chaos qui est capable de tout détruire. Alors que, par exemple, comme ça s'appelle Hannibal Lecter, lui, par contre, il se trouve être que un tueur. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va faire exploser trois quarts de la ville non plus. Tu vois,
non,
c'est ce côté-là.
Ce n'est pas son rôle.
C'est ça. Il va pas faire des braquages et tout. Mais il a ce côté-là où il est dangereux pour l'être humain. Je veux dire, pour toi en tant que victime, je veux dire, t'as pas envie de finir dans une pizza, quoi. C'est ça le truc. Là, lui, Joker, là où il pousse le plus, c'est-à-dire qu'à un moment, lui, il veut détruire l'essence même de la société. Tu vois ce côté ? C'est là où moi, je trouve qu'il est fort. Bon, déjà, rien que le côté charismatique, mais c'est ça, ce côté-là, d'être le véritable méchant. Parce qu'après, c'est vrai que Dark Vador, il est juste finalement que le champion de l'empereur. C'est vrai qu'effectivement, mais. Si tu sois basiquement au niveau de l'histoire, enfin, je veux dire, l'histoire de la guerre des étoiles, hein, je veux dire, tu te retrouves quand même à ce qu'il soit, on pourrait dire un général. Intrinsèquement, il est quand même le méchant. C'est-à-dire, contre lui, toute la rébellion, elle veut abattre, que ce soit l'étoile noire ou Dark Vador. C'est lui le méchant. Mmh. Alors, bon, peut-être qu'il est victime, parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était sauver Padmé. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est avoir sa famille et être heureux. Alors que techniquement, en tant que Jedi, il n'avait pas le droit d'avoir une épouse, mais il a été amoureux. C'est son seul défaut, finalement. Mais pour tout le reste de l'univers, il reste quand même le maître du mal. Tu vois, c'est ça.
D'accord.
Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que tu comprends ?
Oui, je comprends.
Voilà.
Ta vision sur Dark
Vador. Voilà, c'est ça. Parce que, je veux dire, que ce soit des méchants qui n'ont aucune âme à tuer des gens à la chaîne, que ce soit des bestioles qui finalement ne sont là que pour se nourrir, que ce soit des personnages qu'on veut historiques comme Amon, comme Hans Landa ou Bill the Butcher, parce que quand même, je veux dire, quelque part, il a dû exister un type comme lui en New York, que ce soit des personnages de romans comme Alex Large ou Jack Torrance ou même Anton Chigurh. Puisque je crois que c'est No Country for All Men, c'est tiré d'un bouquin, il me semble.
Oui,
aussi. Donc voilà. C'est vrai qu'on a tous ces personnages-là où, quelque part, on se retrouve, et c'est là aussi l'essence même du cinéma, c'est-à-dire qu'on est capable de tout. Que ce soit, comme on avait dit, dans les James Bond, c'est-à-dire que le James Bond est là pour sauver le monde, que ce soit Bruce Willis qui sauve aussi le monde. Ils ont besoin, parce que là aussi il y avait tous les méchants de, hein, de Piège de cristal, les machins de cristal, je les ai pas cités parce que voilà, sans ça.
Mais, de toute façon, dans chaque film il y a un méchant.
Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire
que de toute façon, ils ont su aussi améliorer le rôle du méchant.
Oui, mais voilà.
Alors que le bon était des côtés méchants. Bah, c'est on l'a vu dans James Bond.
Oui, mais tout à fait. Bah oui, parce qu'au début, James Bond, il est quand même, je dirais pas gentillé, mais tu vois, il fait des bons mots. Et on voit avec les. Non, mais.
Oui, oui.
Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment, t'as quand même le truc où Daniel Craig, à un moment, tu sais plus vraiment sur quel fil il joue, quoi. S'il est méchant, s'il est pas méchant. Tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que nous, dans le monde, et ça, on en avait déjà parlé dans plusieurs émissions, c'est-à-dire qu'effectivement. On arrive où le méchant est quand même à être quelque part le champion, ce qui est un peu le cas de, j'aurais pas dire des terroristes, c'est qu'eux ils veulent être les champions du monde, du tiers monde vis-à-vis des puissances occidentales.
Un classique.
Voilà, mais c'est ça. Bah, c'est-à-dire que voilà, et puis parce que tous les méchants, les derniers James Bond, c'est quand même ça. C'est des mecs en fait, ils veulent sauver la planète. Alors le problème c'est qu'ils vont faire des masses. Non, mais oui, ils veulent sauver, ils veulent plus de cette société pourrie et libérale. Ils veulent un Eden vert, ou que ce soit dans Quantum of Solace, quoi. Il y a ce côté-là. Mais voilà, et c'est là où moi je trouve que c'est l'avantage du cinéma, c'est de pouvoir créer ça, ces méchants, et qu'on est capable de les apprécier, quoi. Même de les envier. C'est-à-dire que quand même, t'arrives à. Il faut penser à cet acteur qui est quand même capable de tuer des gens et qui peut rentrer chez lui après, quoi. Et qui peut endosser ces personnages, que ce soit Daniel Day-Lewis ou Christoph Waltz qui joue Hans Landa. Je veux dire, tu te rends compte cette puissance que tu as, même quand ça se.
Oui, c'est qu'un film, quoi.
Non, mais d'accord, mais je veux dire que.
Savoir faire la part des choses.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça dépend, parce que je te signale que, quand même, pour en rappeler le fameux type qui a battu des types dans un cinéma, voilà, lui, la réalité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à des produits de plus en plus perfectionnés, et en plus avec la 3D maintenant, et voilà, et que on veut être de plus en plus réaliste. Donc, alors ensuite, bon, je pense que tu voulais faire un petit mot de la fin, parce que moi je me suis quand même bien lancé là.
Non, je n'ai pas de mot de la fin.
Ça va être bordel dans cette émission d'Arrête ton cinéma. Hein,
voilà, alors là, vous avez un autre méchant, ça s'appelle un parasite.
On l'appelle le baptisme.
Le parasite.
Le baptisme où? Voilà, oui, on est fort. On est fort.
On est désolé, hein, vraiment.
Ah non, mais c'est pas grave,
On peut couper, monsieur, on peut couper après.
On le sait que vous coupez.
Non, mais t'inquiète, un jour on viendra dans tes émissions, on va faire des trucs. Déjà, je trouve inadmissible que Nicolas Vuel vienne parasiter nos émissions, alors c'est bon.
Alors le...
Mais on l'attend, Nicolas Vuel, mais qu'il vienne.
D'accord.
Tu voulais faire un.
Ben, moi j'ai plus rien.
Plus rien.
On va dire quoi que les méchants ben, ont eu une évolution, je pense, dans le cinéma, comme tu l'as dit tout à l'heure, et voilà.
D'accord.
Ouais.
Non, mais il est bourré le type, mais sortez-le.
Eh, il n'y a pas que la porte que tu l'aurais fermé.
Et voilà.
Bam.
Celle-là, on l'attendait.
Non, ici on fait les méchants. Non, mais c'est bon, bisounours.
Un méchant, un vrai méchant.
Ouais.
Ça y est, voilà qui se prend pour un requin maintenant.
Ah, je crois qu'on va être coupé.
Pour moi, ça, c'est le vrai.
Sérieux?
Ah ouais.
Freddy?
Ah ouais, mais. Il a tué quelqu'un à la saucisse et au marteau, quand même. On lui saucisse, quand même.
Ouais, puis il a été réveillé aussi avec un chien qui lui a pissé dessus, quoi. C'est énorme.
Oui, alors, donc, petite séquence pestel.
Ça perd la raison.
Voilà. Puisque finalement, après une semaine de fermeture pour rénovation des lieux et donc de passage au numérique.
Tout à fait, Thierry.
Merci Néo. Donc voilà, on va retrouver.
Mais... Ben oui. Ah oui, on s'est compris. Donc je crois que le premier, c'est chez Hortense.
Mm-hmm.
Oui. Chercher Hortense, pardon.
Chercher Hortense, oui.
De Pascal E. Bonitzer-E avec Christine Scott Thomas, Isabelle Carré, Claude Rich et. Jean-Pierre Bacri, merci mon petit Gwen. Donc présenté en hors compète au 69 festival. Non, attention, 69e.
je vois que les émissions un peu olé-olé, les 69, elles perturbent.
Oui, oui. Donc, on a été perturbé par l'avenue d'un parasite. On l'a tous vu dans Starship Troopers, ce parasite.
Ah oui,
c'est lui.
C'est le truc où ils mettent le M à la fin.
Oui. C'est lui. Donc, Festival International du Cinéma de Venise 2012. Damien, professeur, je fais
le synopsisme. Oui,
oui, bah Damien, oui. Professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme Eva, metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d'amour s'est enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une certaine Zoleka d'être expulsé, Damien se trouve un jour piégé par Eva, qui le somme de demander l'aide de son père, conseiller d'État, qui est joué par Claude Rich, avec lequel il entretient une relation plus que distante. Cette mission hasardeuse plonge Damien dans une spirale qui va bouleverser sa vie. Pascal Bonitzer livre une comédie mélancolique sur les turpitudes de l'intelligentsia parisienne avec un Pacri fidèle à lui-même. Chercher Hortense cache comme ses personnages un réjouissant jeu de pistes. Pascal Bonitzer signe sa comédie la plus enlevée, même si certains trouveront une mécanique légèrement grippée. Tu as quelque chose à ajouter ?
Du tout. Non, je trouve ça assez complet. Donc voilà. D'accord. Et puis, donc, il y avait le film sur Bob Marley, dont on avait déjà parlé avec Anaëlle à l'époque, et que je conseille vraiment d'aller voir. Alors, non, je dis.
Lâchez ce joint, monsieur. Monsieur, lâchez. On ne fume pas dans le studio.
Cool, brother. C'est bon, non, respect. Mais,
d'accord. Donc, Marley de Kevin.
Spacey ?
Non, McDonald.
Oh. Ah oui.
Documentaire.
Bien, documentaire.
Documentaire, c'est un documentaire, faut le dire.
Oui, bah oui. Oui.
La place de Bob Marley dans l'histoire. D'ailleurs, je crois que Kevin McDonald, c'est celui qui a fait.
Le dernier Roi d'Écosse, là.
Tout à fait, il est fort, ce Gwen, bravo. Alors, la place de Bob Marley dans.
J'ai gagné, Matata, j'ai gagné.
Tu te calmes, sinon je t'envoie voir tonton. La place de Bob Marley dans l'histoire de la mécanique.
La mécanique.
Non.
Oui.
Il m'a parlé de la tata alors. Ça m'a perturbé.
Ah oui. C'est vrai.
Mais c'est
vrai.
Avec tous ces chiens là, on sait plus où on
il
est.
Il a fait le moteur explosion. Ouais.
Oui, de Bob Marley dans l'histoire de la musique, son statut de figure sociale et politique et l'héritage qu'il nous laisse sont uniques et sans précédent. Ses chansons délivrent leur message d'amour et de tolérance, de résistance à l'oppression et transcendent les cultures, les langues et les religions. Aujourd'hui encore, avec la même force que lorsqu'il était en vie. En collaboration avec la famille de l'artiste qui a ouvert ses archives privées pour la première fois, Kevin McDonald a réuni une mine d'informations, des images d'archives rarissimes et des témoignages poignants qui interrogent le phénomène culturel tout en dessinant le portrait de l'artiste depuis sa naissance jusqu'à sa mort en 1981, faisant définitivement de Marley le film documentaire de référence au moins pour les 30 années à venir. Loin de la... Non, quoi ? Hein ? Tu me fixes pas, quoi, hein ? Il me jette un pouvoir, messieurs, dames, vous devriez voir ça. Loin de toute hagiographie, c'est pas ce que c'est ? Tu chercheras, ça t'occupera 20 minutes. Le réalisateur du dernier roi d'Écosse, comme le disait Gwen tout à l'heure, mais là il est parti avec ses potes, part sur les traces du grand Bob, tel un journaliste micro à la main. Véritable légende à travers le monde, Bob Marley est et restera immortel en Jamaïque, un pays natal qu'il a pourtant longtemps rejeté. Loin d'être amateur dans le genre, Kevin McDonald nous offre, m'a fait peur, nous offre un documentaire
je
pour le moins
exo.
J'en étais sûr. Il n'avait pas fait ça, la
piste.
Je suis ton fils.
Toi, si tu ne t'aides pas, tu vas aller au coin. Parce que je suis ton père.
Oui, il faut être beau avec une pelle.
On va parler à Michael Myers.
Oui.
Expliquer la life.
Ah, la pelle aussi à Bernie.
Oui.
T'es drôle.
Oui, si, c'est vrai.
Un documentaire pour le moins exhaustif sur la vie et la carrière. Ah oui, ça part en...
En sucette.
En longueur. De cet apôtre...
C'était pas pop
du rastafarisme.
Le rastafari.
Tu te calmes, j'ai encore 5 phrases. Tu restes assis. Bon. On découvre notamment les difficultés, moi aussi j'en ai, auxquelles il a dû faire face parce qu'il était métisse. Bien sûr, il avait un père blanc. Mmh. Images d'archives, témoignages de proches et bien entendu quelques extraits de ses plus grands succès viennent rythmer Marley. Une œuvre incontournable pour tout fan qui se respecte et qui vous permettra de découvrir le sens caché de certaines de ses chansons. Pour les autres, il y a quelques longueurs, mais on retiendra qui fut un artiste et un artisan de la paix trop vite disparu.
Eh ben moi, j'invite tout le monde à aller voir ce film.
C'est vrai, attention, Gwen a du pognon, donc il vous invite tous.
Mais bien sûr.
C'est ce que tu as dit.
Non, j'invite les gens à aller le voir. Ah. Pour la carrière musicale et la carrière politique aussi.
Tu iras voir Marley, moi j'irai voir chez Hortense. Chercher Hortense.
Tu vas aller voir Hortense ? Eh ben, oui. Moi j'irai voir Bob.
Voilà.
Ok. Ben,
il a voulu aller voir Bob. Non, c'est pas vrai.
Ok, d'accord. Alors,
la semaine prochaine, nous parlerons du festival Est-Ouest sur la Croatie. Alors, la semaine prochaine, parce qu'il faut un nouveau thème, ouais, nous allons parler du sport in the cinéma.
Voilà. Tout à...
Merci, au revoir. À la semaine prochaine.
Allez, ciao, ciao, amici et à la septième.
Non, amitié, on dit pas amici.
Si, amici. Ah. Eh, si,
amici, c'est le frère amici.
Ouais,
si.
Amityville, tu connais?
Oui, aussi.
Et c'est aussi. Et à la semaine prochaine.